de Walter Alden Deer, Pierrot, chien de Belgique. Chapitre 1er. Dès le début, les enfants l'appelèrent Pierrot. Évidemment, ce nom ne convenait pas à un chien flamand, mais voilà, sa maîtresse, Mère Marie, était arrivée de Dinan, où l'on parle le français, et on le lui avait enseigné à l'école. À part cela, elle avait des amis français à Bruxelles et aimait beaucoup leur langue, qui évoquait tout ce qui est chaud et méridional. Elle avait souvent raconté aux enfants des histoires d'Arlequin, de Colombine et de Pierrot, et quand ceux-ci virent combien le jeune chien était comique et maladroit, et comme il avait l'air d'être affublé de pantalons larges et bouffants, Henri l'appela « Drôle de Pierrot », et petite Lisa battit de ses menottes potelées en riant aux éclats. Un soir de printemps, Jean Van Huyck avait apporté Pierrot dans ses bras à la maisonnette et l'avait fait culbuter sur le plancher afin d'effrayer Henri et Lisa. Mais ils n'eurent pas de crainte, car Henri avait appris à ne pas avoir peur, et Lisa avait pris d'abord le jeune chien pour un petit agneau. Immédiatement, elle le saisit et essaya de le soulever jusqu'à sa petite poitrine dodue. Mais Pierrot lui mordilla l'oreille et la fit crier de joie. Puis, s'échappant de ses bras, il s'avança en trébuchant vers Henri, qui le renversa sur le dos et chatouilla son petit ventre rond. Sur quoi, Père Jean s'esclaffa bruyamment, tandis que grand-père s'affalait dans sa chaise. Alors le vieux Lupe, qui traînait la charrette à lait de Mère Marie depuis 7 ans, hérissa son poil, bâilla formidablement, se dressa lentement sur ses pattes, abandonna la porte d'entrée et, d'une démarche fière, s'approcha de Pierrot, le flaira, puis se détourna avec un regard plein de dignité mécontente. C'est par cette cérémonie que Pierrot fut accepté et consacré membre de la famille. C'était, en fait, parce que Lupe prenait de l'âge que l'on avait fait venir Pierrot. C'était chose triste que de songer au jour où le vieux compagnon ne serait plus capable de trotter vers la ville pour livrer le lait et le fromage. Mais la Providence a mis d'étroites limites à la vie d'un chien, et même Marie aurait bientôt besoin d'un coursier plus jeune et plus fort. Ainsi, un dimanche matin, Père Jean avait fait mettre à Henri ses plus beaux habits, car ils allaient en voiture à Bruxelles, au marché aux chiens, où se trouveraient quantité de gens. Il ne paraît pas étrange aux Belges d'aller au marché le dimanche, car celui-ci est entièrement différent de ceux qui se tiennent en semaine. Ils en font une vacance en mettant leurs habits de fête. Quand Père Jean et Henri arrivèrent, la ville était déjà vivante et animée par le monde, ce qui, au gai soleil, leur apparut un spectacle amusant. Père Jean trouva un endroit pour attacher son cheval, puis ils se dirigèrent directement vers la grande place. C'était un grand square, pavé, avec tout autour d'imposants bâtiments tels que l'hôtel de ville et la maison du roi. Il y avait beaucoup de monde sur la place, et tout était animé, affairé et joyeux. Un côté semblait être un grand jardin, car c'était le marché aux fleurs, et les marchandes rivalisaient entre elles dans l'arrangement de leurs bouquets et de leurs plantes. C'était très beau, et aussi cela sentait fort bon, à tel point qu'Henri fut pris d'une sorte d'enchantement qui fit que Père Jean dut l'emmener de force. D'un autre côté du square, il y avait des perroquets, des cacatoès, des serins et des oiseaux de toutes espèces dans de petites cages de bois. Quelques-uns, des perroquets, faisaient des efforts comiques pour parler comme les gens. Les oiseaux chanteurs sifflaient et faisaient des trilles, et tout était gai et coloré, ce qui ravissait Henri. Mais à la maison, ils avaient déjà un oiseau, et Père Jean n'était pas venu pour en voir d'autres. À la fin, ils arrivèrent au marché aux chiens. 500 ou 600 chiens de tous âges et de toutes tailles et couleurs étaient debout, tirant sur leur laisse ou couchés, somnolents. Il y avait de grands et robustes chiens, comme Lup, d'alertes chiperques, noires, des griffons bruxellois avec des têtes comme celles de petits vieillards barbus, des chiens de berger belges avec les oreilles pointues et dressées, d'autres à poils bruns et courts, et de superbes chiens noirs à longs poils. Toutes sortes de chiens, depuis les grands danois jusqu'aux ridicules petits bassets. Il y avait des chiens qui avaient l'aspect de travailleurs avertis. Des mères au regard larmoyant, de jeunes fanfarons pur sang proclamant très haut leur passion belliqueuse, de maladroits, étourdis, adorables petits cabots, âgés de quelques mois, qui vacillaient sur leurs jambes écartées et flasques, comme si elles étaient de gelée. Henri vit une douzaine de chiens qui lui auraient parfaitement plu. Mais Père Jean était apparemment plus difficile à satisfaire, car il allait de groupe en groupe sans arrêter son choix. À la fin, il dit à Henri qu'il ne pouvait pas trouver l'espèce dont il avait besoin, et que mieux valait retourner à la maison que de prendre un chien qu'on ne pourrait pas bien dresser. Henri jeta un regard désolé vers cette rangée de chiens, assurément désirables, et sa lèvre commença à trembler un peu. Aussi, Père Jean, au lieu de rentrer de suite à la maison avec Henri, acheta quelques gâteaux pour dîner et lui promit de rester pour entendre le grand concert de l'après-midi, ce qui plut tant à Henri qu'il en oublia son désappointement. À midi, il se produisit un branle-bas général et beaucoup d'agitation à la grand-place, car le marché était fini et tous les vendeurs devaient quitter immédiatement. Dans l'après-midi, le régiment vint en superbe uniforme et joua dans le kiosque une musique entraînante jusqu'à la tombée du jour, alors qu'Henri se sentait devenir très las. Cela avait été une journée étonnante, et Henri s'endormit cette nuit-là avec de gaies visions dansant devant les yeux et de la musique résonnant dans les oreilles. C'était assez de bonheur pour petit Henri. Quant à Père Jean, il n'avait pas trouvé le chien qu'il convoitait. Il connaissait la valeur de la véritable race et ne se souciait point d'en avoir d'autres. Aussi, Père Jean décida-t-il un jour d'entreprendre un voyage pour voir le gros Auguste Nahé, boucher à Villevorde, renommé pour les chiens qu'il élève. Auguste s'en vantait fort. « Leur race, disait-il, remontait loin jusqu'au Moyen-Âge, aux chiens employés par les ducs de Brabant pour la chasse aux sangliers. Il les appelait des matins. Et il est vrai que pendant une centaine d'années, alors que d'autres les avaient élevés sans souci de leur croisement, le père d'Auguste, son grand-père et son arrière-grand-père avaient gardé la race pure. Ce à tel point que quand la Fédération nationale pour l'élevage des chiens de trait fut fondée, il y a une douzaine d'années, elle estima que les affaires des Nahé valaient un certificat de mérite et le leur avait décerné, scellé de 5 cachets rouges. Auguste l'avait fièrement encadré et accroché dans sa boutique. Des 100 000 chiens ou plus qui sont employés en Belgique comme chiens de trait, aucun n'était plus accompli que ceux que Père Jean trouva dans les chenils d'Auguste Nahé. C'étaient de grandes bêtes, avec quelque chose en eux qui rappelait le Saint-Bernard, mais avec de plus petites têtes et le corps mieux pris. Comme couleur, ils étaient de toutes espèces de combinaisons de noir, blanc, fauve. Auguste prétendait que la couleur ne signifiait rien pour un chien de charrette. Leurs oreilles étaient longues et tombantes, et leur queue avait été écourtée quand c'était des chiots, afin de ne pas les gêner dans les harnais. Ils auraient été plus beaux avec de longues queues, mais Auguste faisait de l'élevage dans un but utilitaire plutôt qu'esthétique. Il fut un temps où les propriétaires de chiens, en Belgique, leur taillaient les oreilles pour les faire tenir dressées et en pointe. Mais on découvrit qu'au cours de leur travail continu à l'extérieur, en hiver, La pluie, la neige, fouettant dans leurs oreilles, étaient cause de douleur et les rendaient parfois sourds. Aussi, l'habitude de les priver de cette protection naturelle fut-elle abandonnée. Les chiens d'Auguste, comme les autres de leur race, étaient infatigables et vigoureux. Ils pouvaient aisément traîner 200 kilogrammes, quoique 100 kilogrammes soient considérés être la charge habituelle pour un chien. Trois chiens attelés à une charge de 180 kilogrammes peuvent courir ainsi, à un trot rapide et régulier, pendant des lieues, sans lassitude apparente. Père Jean aimait les chiens, et il aurait pu rester toute la journée avec Auguste dans ses chenils. Mais pour Auguste, les affaires étaient les affaires. Et finalement, il persuada Père Jean de payer un bon prix pour un semblant de petit gueux de la dernière nichée. C'était Pierrot. Il a les pattes larges et les os gros, disait Auguste. Cela veut dire qu'il deviendra grand et vigoureux et vivra de longues années comme mon Jacques. Et il désignait le superbe mâle qui régnait sur ses chenils. Ainsi, Père Jean emmena le cocasse, maladroit, jeune, petit chien, avec lui à la maisonnette, au toit de tuiles qu'il avait construite pour sa fiancée 10 ans auparavant, et où Henri et petite Lisa étaient nés. Les Van Huyck étaient gens sobres, industrieux, économes et prospères parmi leurs voisins. En Belgique, un paysan est toujours un paysan, et il subsiste une large barrière dressée entre le riche et le pauvre. Mais Père Jean était propriétaire de sa petite métairie, située à 2 lieues de Bruxelles, sur la route de Waterloo, au-delà de la forêt de Soignes, et tous y vivaient confortablement et étaient heureux. C'était une région très agréable, avec de verts pâturages et des prairies, des blés ondoyants et des champs de seigle, et comme ornement, des jardins potagers alignés de toutes parts, avec des routes droites, unies et dures, toutes conduisant à la ville entre 2 rangées de grands ormes. Père Jean cultivait son petit champ et, aidé de grand-père, trayait les vaches et faisait le fromage pendant que Mère Marie portait le lait à Bruxelles chaque matin dans de grandes cruches en cuivre qu'elle maintenait propres et luisantes. Plus loin de la ville, où les fermes étaient plus pauvres et plus éloignées du marché, les paysans portaient des blouses grossières et de lourds sabots. Ils vivaient pour la plupart de pain de seigle, de lard et de pommes de terre, et les vendredis de riz au lait et de hareng sort. Tandis que Père Jean et Mère Marie portaient toujours des souliers de cuir quand ils allaient à la ville, les enfants portaient des sabots jaunes avec lesquels ils déambulaient gauchement afin d'épargner leurs souliers des dimanches. De même, grand-père qui préférait ses sabots. Mère Marie était une jeune femme plantureuse, à la figure fraîche, avec une superbe et lourde couronne de cheveux bruns dorés qui était toujours proprement coiffée. Peu importait qu'elle fût pressée ou non. Elle allait nu-tête, hiver comme été, excepté quand il pleuvait. Alors elle se couvrait la tête de son châle. Elle portait une jupe courte et ajustée et un tablier blanc, toujours propre. Le dimanche, la famille allait régulièrement à la messe, habillée de ses plus beaux vêtements, et après cela se régalait de gibier, d'œufs, de beurre et de fromage, et de toutes espèces de légumes. L'après-midi, Père Jean prenait son cornet et allait s'exercer avec sa société de musique. Parfois, il emmenait Henri. C'était une société remarquable, car tous les Belges sont amateurs de musique, et petit Henri attendait impatiemment le moment où son père lui enseignerait à jouer. Quand la société jouait un air martial, oh, alors la poitrine de petit Henri s'enflait à éclater, et il décidait d'être soldat quand il serait grand. Cela serait superbe, vraiment. Mais Père Jean ne pouvait que sourire et lui dire qu'être soldat ne consistait pas exclusivement à porter un bel uniforme et faire partie de sociétés de musique. Certains paysans employaient des chiens à traîner la herse et à cultiver leur jardin potager. Mais Père Jean possédait un grand cheval noir, nommé Médard. Ainsi, la seule tâche de Lupe était-elle de tirer la charrette à lait et d'aboyer la nuit si des étrangers approchaient. Quand Pierrot devint assez grand et put comprendre, Lupe lui apprit à s'éveiller et à aboyer lorsqu'il entendait des bruits inaccoutumés, et autrement, à se tenir tranquille, car un bon chien de garde ne doit pas gaspiller son souffle à aboyer à la lune. Quand les chasseurs rôdaient aux environs avec leurs chiens, Pierrot devenait très excité et voulait les suivre. Mais Lupe lui expliqua que leurs fonctions étaient vaines et frivoles, et au-dessous de la dignité d'un chien de trait. Quoique Lupe lui-même avait perdu souvent la tête, rien qu'en flairant la piste d'un lièvre ou même celle d'un rat ou d'une taupe. Le vieux Lupe était, comme vous le voyez, un chien très sage et ayant beaucoup d'expérience. Il connaissait, comme un guide, toutes les routes et la plupart des rues de Bruxelles. Il savait comment conduire sa charrette avec sécurité à travers les rues encombrées sans être guidé et s'arrêter sans qu'on le lui dise devant les maisons des clients de Mère Marie. Il savait aussi comment traîner sa charge en déployant le moins de souffle et d'effort et se coucher et se reposer tout harnaché chaque fois qu'il faisait une halte, ne fût-ce que d'une minute. Il apprendra toutes ces choses un jour à Pierrot. Mais en attendant, l'éducation du chiot était en partie faite de principes fondamentaux. Quand Lupe était parti pour son travail, Pierrot faisait le gamin et jouait pendant des heures avec les enfants. Et lorsque tombèrent ses premières dents et que la seconde rangée se montra blanche et forte, il apprit comment il faut à propos mordiller une main tendre ou une cheville potelée en jouant ou en caressant. Parfois, il voulait suivre Père Jean et grand-père à la ferme ou à la métairie, et ceux-ci lui apprirent à obéir à l'appel et à se coucher en attendant d'être requis. Ceci était une leçon très dure à apprendre. Vous pouvez m'en croire. Il était difficile aussi à apprendre que les souliers du dimanche n'étaient pas faits pour être rongés comme on le ferait d'un os du bouillon. Ainsi, Pierrot voyait ses jours d'enfance s'écouler heureux à la ferme Métairie de la route de Waterloo. Il y avait assez de lait écrémé et d'autres choses à manger pour lui, et après avoir triomphé d'une légère prédisposition aux coliques, il commença à se développer très rapidement. Ses pattes persistaient à se maintenir en avant pendant la croissance, et il était encore maladroit quand il courait vite. Mais ses os devenaient durs et forts, et il grandissait solide et vigoureux. Quand arriva le temps froid, ses aboiements devinrent plus profonds et moins aigus, et les poils rudes commencèrent à se montrer à travers sa douce toison de chiot. Pierrot grandit rapidement et devint un beau gros chien noir et blanc avec des taches rousses au-dessus des yeux, sur le museau et aux pattes de devant. Pierrot ne pouvait encore porter petite Lisa sur son dos, comme le faisait si aisément le vieux Lupe. Mais il semblait suffisamment grand à Henri pour quoi que ce soit, et le gamin était très impatient de voir commencer sérieusement l'éducation de Pierrot. Alors grand-père, en ses heures de loisir, construisit une petite voiture jouée et un harnais pour Pierrot, et lui et Henri commencèrent les leçons. Au début, Pierrot était très indocile et paraissait désireux de se coucher lui-même dans la voiture. Mais après quelque temps, grand-père lui fit comprendre qu'il devait marcher droit devant lui quand on le lui ordonnait et ne pas s'arrêter avant qu'on le lui permît. Et enfin, ils lui enseignèrent de tourner quand il sentait l'attraction d'une reine sur son collier. Finalement, quand grand-père fut certain que Pierrot avait bien profité de ses leçons, il permit à Henri de l'emmener sur la route avec Lisa dans la charrette, à la grande joie de cette menue et joyeuse personne. Un jour, comme il passait solennellement sur la route, Henri, marchant crânement à côté et petite Lisa assise fièrement comme une dame dans sa voiture, ils rencontrèrent un soldat belge coiffé d'un bizarre petit bonnet et portant un uniforme noir avec une raie rouge au pantalon. Henri salua comme grand-père le lui avait appris, et le soldat fit halte. « Où allez-vous, monsieur et mademoiselle ?» demanda gaiement le soldat. « Faire une promenade en voiture, tout simplement, » répondit Henri, interloqué de s'entendre interpeller de façon si cérémonieuse. Le grenadier, qui n'était pas loquace, les regardait avec un sourire moqueur. Alors Henri reprit courage. « Mon père porte aussi un costume avec des boutons de cuivre, » dit-il. « Est-il soldat ?» demanda l'homme. « Non, » répondit Henri, « mais il fait partie de la société de musique. »« Ah, voilà. Et en ferez-vous partie aussi ? Et porterez-vous aussi un paletot avec des boutons de cuivre ?»« Peut-être. Et peut-être serai-je un grenadier ou un lignard. »« Et mademoiselle, que deviendra-t-elle alors ?»« Lisa ? Oh, elle se mariera avec un bourgmestre, » répondit Henri, ce qui fit rire le soldat de bon cœur parce qu'il avait l'esprit simple. Et il passa. Père Jean aussi rit de sa façon bruyante et cordiale quand Henri lui narra la rencontre. Mais grand-père secoua la tête et parut très pensif. « Cela se peut, » dit-il. « Qui sait ?» Et ainsi l'hiver passa, avec quelques menues aventures, mais de façon très calme. Pierrot devenait grand Pierrot maintenant, était un membre de la famille, plus que Lup ne l'avait jamais été. Lup était un bon chien sage et capable, mais seulement propre au travail et indifférent. Toute la famille aimait Lup et déplorait de le voir devenir vieux, parce qu'il avait été un fidèle et loyal serviteur. Mais c'était Pierrot qui avait réellement trouvé une place dans leur cœur. Il n'y avait pas eu d'enfant avec qui jouer quand Lup était un jeune chien, et de là la grande différence. Il avait de bonne heure trouvé la place qu'on lui réservait entre les brancards, et sa plus grande joie résidait dans le travail journalier. Tandis qu'Henri et petite Lisa avait fait de Pierrot un camarade. Celui-ci grandit ainsi avec un cœur aimant et avec une façon plus vaste, plus profonde et plus variée d'envisager la vie. Lup servait de bon maître et était content, mais Pierrot avait besoin d'affection donnée et rendue. L'hiver était froid, un hiver très dur pour le vieux Lup. Il devint un peu rhumatisant et ses pattes de derrière se firent raides. Il acceptait avec plus de promptitude chaque occasion de se reposer, et se levait avec moins de vivacité qu'auparavant. Père Jean et Mère Marie s'en aperçurent tous les deux, et commencèrent à songer à compléter l'entraînement de Pierrot. Quand revint le temps chaud du mois de juin, Lup alla mieux, mais il était évident que Pierrot devrait bientôt prendre sa place. Le novice n'avait que 15 mois. Son corps, qui s'était formé avec une rapidité extraordinaire, devait encore se développer, quoique déjà il paraissait aussi grand et aussi vigoureux que Lup. Il avait un appétit formidable, et il parut à Père Jean qu'il était temps qu'il gagnât sa nourriture. Père Jean avait un jour dans la métairie un fût très lourd qu'il désirait déplacer. Et, aidé de grand-père, il pouvait à peine le bouger. Médard le cheval avait été prêté à Joseph Verbeck, le maraîcher, pour aider à labourer un champ de choux tardifs. Quand Lup revint de la ville avec Mère Marie, ils l'attelèrent à une chaîne enroulée autour du fût. Alors Père Jean le souleva avec une barre, pendant que grand-père glissait des rouleaux dessous. Père Jean et le petit Henri poussaient par derrière. Grand-père était prêt, avec plusieurs rouleaux, et Mère Marie commandait à Lup de tirer. Avec grand effort, ils déplacèrent la lourde charge de quelques centimètres, tandis que Lup commença à haleter péniblement. « C'est trop dur pour lui, » dit Mère Marie. Il n'est plus jeune, il se fera du mal. » Grand-père pensa alors à jeune Pierrot et envoya Henri et Lisa à sa recherche. Ils l'attelèrent à la chaîne, à côté de Lup, et Mère Marie donna le signal du départ. Pierrot se rua vigoureusement en avant et retomba sur son derrière. Vieux Lup le regarda d'un air dédaigneux. Cela n'était pas la manière de mouvoir une charge. Pierrot se releva de nouveau et se cala en avant dans son collier, ses ongles grattant le sol de la métairie dans un effort pour avoir un point d'appui. Et avant que les autres fussent prêts, le grand fût commença à se mouvoir. Alors Lup tira sa charge en avant, Père Jean et Henri poussèrent des épaules et le fût continua à bouger par la vitesse acquise. D'abord, Pierrot tira par secousses, grattant le sol de ses pattes de devant, et la langue pendante, il voulait courir. Mais Lup grogna, et bientôt il s'appliqua à donner des coups de collier réguliers qui comptent. Grand-père commença à introduire les rouleaux sous le fût, Mère Marie lança des mots perçants pour les encourager, et peu à peu, les deux grands chiens tirèrent la pesante charge de l'autre côté de la métairie. Quand le travail fut fini, Pierrot était haletant et sa langue pendante laissait tomber de la bave. Mais il regardait très fièrement Mère Marie quand grand-père lui enleva son harnais et remuait la queue violemment quand elle prodigua les mots de louange attendus. Vieux Lup ne dit rien, mais avança lourdement vers son morceau de tapis et s'y affala d'une pièce. Alors Père Jean s'approcha de Pierrot, lui tâta les pattes de haut en bas et lui pinça le dos et les épaules. « Il est bon, » dit Père Jean. « Je crois que vous pourrez le prendre avec Lup demain à la ville. » Pierrot était devenu grand. Chapitre 2. Le premier voyage de Pierrot à Bruxelles fut rempli d'aventures étonnantes. Mère Marie, très éveillée et très fraîche, le fit sortir avant le lever du jour. Elle retira de l'eau froide, dans laquelle elle se trouvait depuis la veille, les cruches de cuivre luisantes, remplies de lait crémeux, et les essuya avec soin. Alors elle amena la charrette basse avec ses deux fortes roues et ses à-côtés inclinés en dehors, y déposa soigneusement les cruches et y mit encore un fromage rond et une motte de beurre. Lup arriva lentement et Mère Marie lui mit sa sangle et son collier auquel étaient attachées les rênes et, le plaçant entre les brancards, releva vivement les traits. Pierrot avait naturellement observé tout cela maintes fois auparavant, mais il fut un peu étonné quand Mère Marie décrocha son propre harnais et le lui mit. Elle le conduisit à côté de Lup et l'attela au brancard de gauche, passant les traits dans un anneau que grand-père avait vissé au devant de la charrette. Immédiatement, Pierrot comprit qu'il allait entrer dans la vie, et dans son impatience, il se mit à bondir et à se secouer. Lup se tourna, lui mordit le bout de l'oreille en lui disant de ne pas faire le saut. Alors Mère Marie s'assura si les cruches étaient bien assujetties, épingla son petit châle sur sa poitrine et, assemblant les rênes, elle cria « Hu, Lup ! Hu, Pierrot !» Et les chiens trottèrent dehors dans la fraîcheur matinale, Mère Marie marchant rapidement à côté de la charrette. Après un moment, ils rencontrèrent une autre femme, sortant d'une allée avec une charrette à lait, comme celle de Mère Marie, et ils cheminèrent tous ensemble, Mère Marie et la femme, causant et riant. Pierrot essaya de lier connaissance avec l'autre chien, mais il se trouva que celui-ci était un être hargneux, et Pierrot fut forcé de renoncer à son intention. Quand le jour se leva, d'autres gens apparurent sur la route avec des chiens et des charrettes, des femmes et des hommes conduisant des fruits et des légumes frais. Certains maraîchers avaient de plus grandes charrettes avec deux ou même trois chiens, et quelques-uns d'entre eux, les paresseux, étaient assoupis dans leurs attelages. La chaussée de Waterloo allait directement vers le centre de Bruxelles, Mais Mère Marie et les autres laitières ne prirent pas cette route. À un moment donné, elles tournèrent par une rue de traverse et enfin arrivèrent à la large artère très mouvementée, connue sous le nom d'avenue Louise. Les maisons apparurent plus rapprochées les unes des autres, et il y avait plus d'animation dans les rues. Pierrot n'avait jamais vu autant de monde, et il trouvait tout cela si intéressant et si excitant qu'il fallut les efforts combinés de Lupe et de Mère Marie pour le faire continuer à marcher devant lui. Ils étaient partis le matin un peu avant 4 heures. 1 heure et demie plus tard, Pierrot se trouva dans la ville elle-même, avec des maisons s'alignant de façon ininterrompue de chaque côté de la rue. Le bruit était croissant aussi, et Pierrot était heureux de trotter en sécurité avec son flanc droit touchant le brancard de Lupe. Il aurait eu peur si ce n'avait été la rassurante présence de Lupe et de Mère Marie, qui ne paraissaient pas du tout troublées. Arrivés au coin d'une rue qui traversait l'avenue, ils furent arrêtés par un agent de police à la moustache altière. Il portait un uniforme noir avec un galon d'argent au képi et avait au côté un sabre inquiétant. Derrière lui se trouvait une femme, paraissant très alarmée, à côté de son chien et de sa charrette, attendant jusqu'à ce que l'agent trouve le temps de l'emmener au bureau de police. Peut-être son lait n'était-il pas frais, ou avait-il été baptisé? « Oh, tranquille !» commanda Mère Marie. Et les chiens s'arrêtèrent. Alors l'agent de police commença par inspecter les cruches de Mère Marie et préleva un échantillon du lait. Il examina les chiens pour s'assurer qu'ils n'avaient pas de blessures et les harnais pour voir s'ils ne les gênaient pas et demanda à Mère Marie de lui montrer le bol à boire et le morceau de natte pour coucher les chiens au repos. Trouvant tout en ordre, car Mère Marie était une laitière soigneuse, il leur permit de passer, et vers 6 heures, ils étaient prêts pour les affaires. Mère Marie apporta à boire à Lupe et à Pierrot, et leur donna à chacun un morceau de biscuit de chien. Puis, après un petit repos, ils commencèrent leur tournée. Plusieurs des chiens de Mère Marie résidaient au quartier Louise, où habitent beaucoup d'Anglais, et elle paraissait y être très bien accueillie. Quand le soleil darda plus fort, Pierrot trouva très agréable de se sentir à l'ombre des grands marronniers de l'avenue Louise, pendant que Mère Marie portait ses cruches luisantes dans les maisons. Des voitures et des automobiles roulaient sans discontinuer, et des gens en gaieté passaient sur les trottoirs, formant un cortège fascinant pour le divertissement de Pierrot. Quand il devenait remuant et cherchait à avancer sans Mère Marie, Lupe, qui ne perdait pas une occasion de se coucher et de se reposer, le retenait fermement. En somme, Pierrot se conduisit très bien pour son premier voyage. Et alors, il y avait aussi beaucoup, beaucoup d'autres chiens à regarder. Il n'était jamais venu à l'idée de Pierrot qu'il y eût autant de chiens sur la terre, et il fut surpris de ne pas les voir plus turbulents. Lupe, apparemment, ne faisait aucune attention à eux. Plus remarquables étaient les grandes charrettes des marchands de volailles de Malines et autres endroits éloignés, qui se réunissaient au marché couvert de la rue du Quesnoy. À plusieurs de ces charrettes étaient attelés 5 grands chiens, un entre les brancards et 2 de chaque côté. Parfois, un 6e était sous la charrette, avec ses traits accrochés à l'essieu. Ces marchands de volailles voyageaient la nuit, Malines étant située à 24 kilomètres de Bruxelles, afin d'être de bonne heure au marché. Et fréquemment, ils s'endormaient sur leur charrette, laissant trotter les chiens sans les guider. Les intelligents animaux ne maintenaient pas seulement leur marche assurée en se pressant, mais apprenaient à éviter toutes les difficultés de la route par leur propre initiative. Il y avait encore des laitières et des blanchisseuses avec des charrettes, comme celle de Mère Marie, traînées par 1 ou 2 chiens. Il y avait des boulangers et des colporteurs de fruits et légumes, qui pour la plupart avaient des charrettes hautes, avec leurs chiens attelés dessous. Il y avait aussi de bruyants marchands de moules, criant leurs marchandises et poussant leurs brouettes devant eux, avec un chien attelé en tête pour les aider. Parfois, un pauvre homme passait avec un indescriptible véhicule chargé de bois brûlé, de vieux chiffons et d'on ne sait quoi, tiré par un chien de petite taille, bâtard, mal nourri, qui traînait sa charge avec peine. Mais pour la plupart, les chiens étaient beaux, grands et bien bâtis, habitués à leur travail et paraissant s'en réjouir. Le chien, en fait, n'est pas seulement le plus fidèle ami à quatre pattes de l'homme, mais quand il est mis à l'ouvrage, il en est l'aide et l'esclave le plus soumis. Il est souvent entêté, mais quand il travaille, il le fait de bonne volonté. D'autres animaux qui ont été attelés et dressés à faire l'ouvrage de l'homme, chevaux, éléphants, chameaux, mules, ânes, bœufs ou rennes, travaillent pour la plupart avec une sorte d'indifférence et de résignation. À l'exception des plus intelligents, l'éléphant et le cheval, le chien est le seul quadrupède qui met un véritable intérêt et de la joie dans l'accomplissement de son labeur. Soit qu'il hale un chaland le long d'un canal en Belgique, ou qu'il tire un traîneau en Alaska, il met son cœur et son cerveau à sa tâche et travaille comme un homme. Il n'arriva pas à Pierrot ni à Lupe de discuter l'injustice de leurs conditions. Lupe, en fait, n'était heureux qu'entre les brancards. Et toute discussion sur le point de savoir si oui ou non les chiens de labeur sont traités avec cruauté est plus ou moins oiseuse, car cela dépend entièrement de leur maître. Certains propriétaires de chiens sont cruels, sans nul doute, et d'autres manquent de réelle affection pour leurs chiens. Mais pour la plupart, le sens commun leur suggère de bons traitements. Le maître qui amoindrirait la valeur de sa propriété par surmenage ou manque de nourriture serait un inconscient. En général, les chiens sont bien nourris et sont entretenus en bon état, en raison du travail qu'on leur demande. La Belgique a été lente à établir des règlements dans ce sens, mais ces dernières années, la Société protectrice des animaux s'est montrée active, et notamment dans certaines villes, on peut, en mains endroits, lire cette indication « Traiter les animaux avec douceur ». Depuis quelques années, fonctionne à Bruxelles, entre autres, un service d'inspection des harnais par la police, laquelle s'assure si ceux-ci ne gênent pas les chiens, et les conducteurs de chiens blessés, malades ou perclus sont tout au moins avertis. Avant midi, Mère Marie avait servi tous ses clients et vendu tout son lait. Lupe savait fort bien quand la tournée était achevée, et il montrait un intérêt croissant à la perspective du retour à la maison et du dîner. Pendant qu'ils passaient à travers le tumulte de la grande place, ils virent beaucoup de marchands de volailles se préparant au départ. D'un bout à l'autre du square, des cris s'entendaient. « Huevos ! Huesus ! » Et qu'à, un autre attelage s'en allait vers la route de Malines. Pierrot était très las quand il atteignit la maison, tant à cause de l'émotion occasionnée par la nouveauté que par le travail accompli. Il était très content de se coucher en rond sur son lit et rêver de charrettes, de chiens et de gens, de rangées de maisons. Et Mère Marie pria les enfants de ne pas le déranger. Le lendemain, Pierrot resta à la maison. Mais le jour suivant et beaucoup d'autres, il voyagea de nouveau vers Bruxelles avec Mère Marie et Lupe. Petit à petit, Mère Marie et Lupe lui apprirent les choses qu'un chien de charrette doit connaître. Et peu à peu, il cessa de s'étonner et de s'énerver par la vue, les bruits et les odeurs de la ville, et quand il rentrait à la maison, il était moins fatigué. Un jour vint où vieux Lupe était manifestement souffrant, et Père Jean crut que le moment était venu d'essayer Pierrot seul avec la charrette. À cet effet, Mère Marie éveilla Henri de très bonne heure le lendemain matin, et ils attelèrent Pierrot entre les brancards à la place de Lup. Henri devait accompagner Mère Marie, afin de surveiller Pierrot pour qu'il ne se sauve pas pendant qu'elle servirait ses clients. Le vieux Lup se leva difficilement et vint en tremblant pour se faire atteler comme d'habitude. Mère Marie l'écarta gentiment, tandis que Lup semblait un moment surpris et offensé. Alors son ressentiment envers l'usurpateur s'éveilla tout à coup, et il saisit Pierrot à la gorge. Pierrot ne s'était jamais battu, mais il était fort et agile, et l'instinct lui apprit comment il devait se défendre. Il se dégagea de Lup, puis les deux chiens s'empoignèrent. Pierrot était embarrassé par les brancards et les harnais, mais il tint bon et ne se montra pas agressif. Mère Marie envoya Henri appeler son père à la hâte, et saisissant un bâton, elle tenta de séparer les deux chiens. Tous deux avaient la gueule en sang, mais n'étaient pas blessés sérieusement quand Père Jean arriva sur les lieux. Mère Marie tint Pierrot par son harnais, pendant que Père Jean s'occupa d'entraîner Lup, montrant les dents et grognant, et de l'attacher dans la métairie. Alors Mère Marie se dépêcha de charger sa charrette, et bientôt ils sortirent sur la route. Au son du bruit des roues au départ, Lup fit entendre un long hurlement de désespoir. Pierrot trottait fièrement en avant, affectant de ne pas entendre, tandis qu'une grande tristesse étreignait le cœur d'Henri et que des larmes remplissaient les yeux brillants de Mère Marie. Le voyage à Bruxelles parut très long et ennuyeux à Henri, mais il déambulait comme un homme à côté de sa mère qui essayait de le distraire avec des histoires amusantes sur la ville et ses habitants. Henri était allé à Bruxelles maintes fois avec son père, mais jamais il n'avait passé autant de temps dans les rues, et il oublia bientôt sa lassitude à la vue de toutes les choses intéressantes qui l'entouraient. Il remarqua que beaucoup d'autres chiens portaient des muselières, et il s'informa de la raison auprès de sa mère. « C'est parce qu'ils sont méchants, » dit Mère Marie. « Ils mordent les gens qui les dérangent et cherchent à se battre avec d'autres chiens. » « Mais Pierrot ne porte pas de muselière, » dit Henri. « C'est parce qu'il est bon, » dit Mère Marie. « Si on se fait un ami de son chien et qu'on ne le batte jamais, sauf quand il est très méchant, et si on lui parle souvent, il devient vraiment comme une personne, » et ne tente pas de mordre qui que ce soit. Les chiens de charrette belges ont naturellement un bon tempérament, mais en général, leur existence les a rendus combatifs. Quand leur maître se donne la peine de les traiter en camarades dès leur jeune âge, ils deviennent excessivement dévoués et affectueux. Tel était Pierrot. Il ne savait pas ce que c'était qu'avoir un ennemi. Et son amour pour Père Jean, Mère Marie, grand-père, Henri et petite Lisa s'était développé aussi naturellement que ses gros muscles et son poil rude. Vers le milieu de la matinée, Henri se sentit de nouveau fatigué et commença à s'asseoir sur la bordure des trottoirs, à côté de Pierrot, toutes les fois que sa mère le quittait. Alors Mère Marie se rendit compte qu'il avait besoin d'une diversion. « Regarde !» lui dit-elle. « Ici sont mes amies, les petites marchandes de journaux. Tu liras connaissance avec elles pendant que Pierrot et moi allons servir Madame Courtois. Elle habite une rue tranquille et Pierrot ne s'enfuira pas. Nous reviendrons de suite. » Derrière un petit étalage au coin d'une rue étaient assises deux jolies jeunes filles cousantes et bavardant ensemble derrière leurs piles de magazines et de journaux. Elles regardèrent en souriant Mère Marie et l'accueillirent gaiement quand elle s'approcha. Elles aussi étaient de la partie sud de la Belgique et parlaient plutôt le français que le flamand. Elles plurent de suite à Henri. « Voilà mon petit Henri, » dit Mère Marie aux jeunes filles. « Et il a les jambes qui commencent à se fatiguer. Peut-il s'asseoir auprès de vous pendant que je vais chez Madame Courtois ?» les deux jeunes filles rirent joyeusement et firent place à Henri, entre elles, sur le petit banc étroit, pendant que Mère Marie et Pierrot passèrent par une rue latérale. Une des jeunes filles avait des fossettes dans les joues, et l'autre avait des cheveux bouclés qui voltigeaient autour de ses oreilles. « Où est le vieux chien aujourd'hui ? » demanda une des jeunes filles. « Il est malade, » répondit Henri. « Et le jeune chien peut déjà prendre sa place ?» Henri approuva très sonnellement. « Oh oui, » dit-il, « nous l'avons dressé. » Sur quoi les deux jeunes filles rirent de nouveau. Bientôt ils furent très bons amis, et Henri leur raconta tout ce qui concernait Lupe, Pierrot et Médard, et Lisa et grand-père, et l'oiseau jaune dans sa cage en bois. Quand Mère Marie et Pierrot revinrent, Henri se sentait très reposé, mais avait assez faim, et une des jeunes filles lui donna une poire de son panier. Quand Mère Marie l'emmena, Henri se retourna et leur fit des signes de la main. Les jeunes filles rirent et leur crièrent « Au revoir, Mère Marie ! Au revoir, Henri ! Au revoir, monsieur le chien !» Et Henri riait aussi, car c'était une drôle de façon de parler à Pierrot. La charrette était plus légère en retournant à la maison. Aussi Mère Marie permit-elle à Henri de s'y asseoir pendant une partie du trajet. Pierrot trottait ou marchait avec assurance, comme un travailleur de bonne volonté qu'il allait devenir. Le lendemain, Lupe allait mieux, mais Père Jean pensa qu'il était préférable qu'il eût un bon repos. Aussi lui donna-t-il un lit de paille confortable dans une partie inutilisée de la petite étable en chaume. Mère Marie, Henri et Pierrot s'en allèrent de nouveau à la ville sans lui. Encore une fois, Lupe hurla au moment de leur départ et fut très abattu toute la journée. Personne ne put dire si Lupe mourut de chagrin, de vieillesse ou de rhumatisme. Père Jean ne s'imaginait pas ce que représentait dans la vie de Lupe le fait d'être privé de son emploi. Mais cependant, qu'aurait-il pu faire d'autre? Le pauvre chien dépérit rapidement. Il ne voulait pas manger, et il répondait à peine aux attentions que toute la famille lui prodiguait. Seulement, les derniers jours, ses yeux suivaient grand-père partout avec de muettes implorations, et quand grand-père à la fin s'agenouilla auprès de lui, Lupe se traîna avec peine dans les bras du vieillard, et dans un grand soupir, il mourut. Mère Marie, Henri et Lisa pleurèrent. Lisa le plus bruyamment, tandis que grand-père et père Jean étaient tous les deux calmes et très graves. Ils ne sied pas à un homme de se lamenter sur la mort d'un chien, comme il le ferait pour un frère ou même pour un vieil oncle bourru. Mais parfois, un chien, en mourant, laisse une sensation tout aussi profonde de sa disparition. Lupe, avec tous ses défauts, avait été pendant si longtemps un membre de la famille, que la maison ne paraîtrait plus jamais la même sans lui. Ils l'enterrèrent sous la vigne, dans un endroit abrité, et beaucoup de tombes humaines ont été arrosées de larmes moins sincères. Alors Lisa apporta des bleuets et des coquelicots rouges et les déposa sur le monticule, puis ils rentrèrent tous silencieusement à la maison. Ainsi, vieux Lupe alla rejoindre ses ancêtres, et jeune Pierrot prit définitivement sa place.